Radio Okapi.
Le journal Onesi Mukandila.
Okapi.
Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition des Vos Nouvelles dont voici les titres. La MONUSCO félicite la PNC d'avoir bien encadré la poule hier. Au retour d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, le commissaire de l'UN Paul l'a évalué aujourd'hui de concert avec le commissaire divisionnaire de la PNC. Affaire de spoliation immobilière opposant Moïse Katumbi à Alexandros Toupis, Madame Ramazani, juge du tribunal de paix ayant condamné l'ancien gouverneur du Katanga, affirme avoir été victime des menaces pour signer le jugement dont elle souhaite l'annulation. Le projet Inga 3 du pont dans l'aile, la Banque mondiale vient de suspendre son aide. Cette institution voit d'un mauvais œil la décision du gouvernement congolais de donner à ce projet une orientation stratégique que autre que celle convenue en 2014. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour le sommaire. À toutes et à tous, bonsoir. La MONUSCO félicite la police nationale congolaise d'avoir réussi à encadrer la foule hier tout au long du parcours du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, de retour à Kinshasa. Le commissaire général de l'UN Paul a évalué aujourd'hui la journée d'hier avec le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise. D'après le général Abdouhazir Awale, la MONUSCO va continuer d'appuyer la police par des conseils pour toujours bien se comporter en cas de manifestation. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
D'abord, c'est quelque chose qui a été apprécié. Hein. Je crois que par tout le monde, il y a une unanimité hein, par rapport à ce qui s'est passé hier. Et on se réjouit aussi que ça a été géré ainsi et que les choses soient bien passées dans la paix et que le président de l'UDPS a pu regagner sa résidence tranquillement. Alors, c'est pas seulement que ça. Nous avons des échanges réguliers sur comment la police MONUSCO peut accompagner la PNC en termes de conseils, en termes de formation, en termes d'appui, que ce soit ici à Kinshasa ou dans les autres villes. Et nous continuerons à le faire. Ce sont des discussions que nous avons tous les jours et nous allons continuer de les avoir, que ce soit celles d'hier ou celles qui vont arriver, de voir comment la police MONUSCO peut accompagner la PNC. La MONUSCO est en contact avec tout le monde hein, de façon à voir comment, quel rôle on peut jouer pour que les choses se passent de la meilleure manière possible.
Pendant ce temps, les FARDC annoncent le lancement depuis 4 jours des patrouilles des combats dans la ville de, dans la vallée de Mwalika. C'est dans le secteur de Rwenzo et en territoire de Beni. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et des opérations Sokola 1, cette opération de l'armée est consécutive à des informations faisant état d'une présence d'hommes armés non autrement identifiés dans la vallée de Mwalika. Le lieutenant Mac Auzukai, parle également de la protection de la ville de Beni par les FARDC à travers ces patrouilles des combats. Écoutons-le au micro de Martial Papimoukeva.
Vous savez que en tactique militaire, on ne peut pas défendre une ville tout en étant dans la ville. Cette opération a été lancée pour sécuriser aussi la ville de Beni, parce que vous savez que il y a des soupçons faisant état de la présence de personnes suspectes dans la vallée de Mwalika. Et pour protéger la ville de Beni, il fallait envoyer des patrouilles de combat pour essayer de voir exactement ce qui se passe dans cette partie. J'ai appelé ça patrouille de combat, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là-bas pour faire du tourisme, même si c'est dans le parc. Tout celui qui sera appréhendé et qui présentera la face d'un ennemi sera traité comme tel. C'est une question de sécuriser les localités qui longent la rivière Semuliki. Le travail se fait encore. Quand ça sera opportun de communiquer, nous allons vous donner la situation sur le terrain.
Deuxième report signé de la cérémonie de libération des bénéficiaires de la grâce présidentielle prévue aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Une trentaine de détenus attendaient hier leur sortie de la prison, mais cette sortie avait été reportée à aujourd'hui. Pour les autorités pénitentiaires, le nombre des détenus éligibles à la grâce présidentielle devait être augmenté de 30 à 500 et leur libération se fera progressivement. Cela intervient en exécution de la première des trois ordonnances portant mesure de grâce présidentielle collective pour la remise de peine de 5 ans. Et ce ne sont pas que des détenus des droits communs, ce ne sont que des détenus de droit commun condamnés par le tribunal de paix qui bénéficient de cette grâce à Kinshasa. Rebondissement dans l'affaire de spoliation immobilière opposant Moïse Katumbi à un citoyen grec Alexandros Toupis. Depuis le début de la semaine, circule une lettre signée par Madame Ramazani Wazuri, juge du tribunal de paix Lubumbashi, Cameroun. Kamalondo qui a condamné l'ancien gouverneur du Katanga 3 ans de prison pour la juge. La décision était une œuvre de la honte hiérarchique, de la haute hiérarchie, ou pour apposer sa signature, elle a été victime de menaces physiques et morales. Ainsi, elle demande que ce jugement soit nul et de non-effet. L'analyse de sa correspondance par Nelly Kabina.
Cette correspondance de la présidence du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo est un mea culpa basé sur trois principes. L'amour de son pays, le respect de la justice comme socle d'un état de droit et son indépendance comme juge, mais bien plus la crainte de la justice divine. Pour cela, elle ne peut se résoudre à voir un innocent illégalement condamné. Dans cette correspondance adressée au ministre de la justice et des droits humains, la présidente du tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo dénonce les pratiques qui ont conduit à la condamnation par son tribunal de l'ancien gouverneur du Katanga. Elle confesse tout d'abord que le fond de l'affaire Moïse Katumbi contre Alexandros Stoupis sur la spoliation immobilière avait un seul but, d'obtenir l'inéligibilité de cet ancien gouverneur du Katanga. Elle indique que le jugement était l'œuvre des autorités de la haute hiérarchie. Elle avoue, je cite, « J'ai été menacé de révocation et d'emprisonnement » avant de continuer que, sur instruction de la hiérarchie, le fond de la cause n'a jamais été examiné juridiquement. Fin de citation de Lubumbashi Nelly Kabena, Radio Okapi.
Nous vous le disons dans le sommaire, la Banque mondiale suspend son aide au projet hydroélectrique Inga 3 dans un communiqué publié lundi dernier. Cette institution financière indique que la mesure fait suite à la décision du gouvernement de la RDC de donner à ce projet une orientation stratégique différente de celle qui avait été convenue en 2014. Tite Liongi a travaillé comme expert en communication et suivi de la cellule du projet Inga 3. À l'en croire, la Banque mondiale n'a pas tout simplement apprécié le fait que le projet Inga 3 ait été réorienté vers la présidence de la République avec la nomination d'un chargé de mission sans une consultation préalable des partenaires. Il a été joint au téléphone par François Kadima.
Le projet Inga 3, c'est un projet qui bénéficie de plusieurs partenaires. Et dans le projet bénéficiant de plusieurs partenaires, vous savez que on ne peut pas prendre une initiative unilatérale. Le gouvernement congolais qui a pris l'initiative de réorienter le projet vers la présidence de la République sans pour autant consulter ses partenaires au développement. Alors, du fait qu'on a nommé depuis l'année passée le chargé de mission et la banque n'a pas compris. Et comme vous savez, l'assistance technique dont on fait allusion de la Banque mondiale a bénéficié de la décision du conseil d'administration de la Banque mondiale. C'est au niveau de grand niveau. Et il y avait un certain nombre de comportements qui devaient obéir. Et la République démocratique du Congo n'a pas compris cela. Il fallait qu'il y ait une législation appropriée qu'on appelle la loi Inga. Simplement parce que pour permettre de préserver les intérêts stratégiques, économiques et financiers de la République démocratique du Congo avec les contrôles étatiques appropriés. Et ensuite, assurer l'attractivité et la bancabilité pour le partenaire privé de l'État de projet concerné.
Sachez que c'est en mars 2014 que la Banque mondiale avait approuvé un financement de 73,1 millions de dollars américains comme assistance technique pour le développement des infrastructures du projet Inga 3. Cette aide avait été déboursée la même année. L'opération d'enrôlement des électeurs pour les prochaines élections démarre dans le Nord-Ubangi le 31 juillet prochain. Le Nord-Ubangi est choisi comme province pilote pour cette opération à titre expérimental avant de l'étendre dans les autres provinces du pays. Dans cette perspective, la CENI sensibilise la population en âge de voter et annonce qu'elle va enrôler de nouveaux majeurs à partir de 16 ans, ce que fustige l'ONG APE, Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant, établie à Badolité. Le point avec Dominique Colombi.
C'est dimanche prochain que la CENI commence l'identification et l'enrôlement de la population en âge de voter dans le Nord-Ubangi. Des messages invitant des potentiels électeurs à s'enrôler passent à travers les médias locaux, notamment des messages invitant des nouveaux majeurs, y compris des enfants âgés de 16 ans, à s'enrôler. L'ONG APEE, Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant, désapprouve cette option de la CENI. On écoute son secrétaire exécutif, Marcel Toté.
Nous demandons à la CENI de respecter les lois de la République et aussi la loi portant protection de l'enfant. Ne pas être enrôlé qu'une personne âgée de 18 ans. Dire qu'il faut enrôler à l'horizon 2017-2018, il n'y a aucun texte légal qui nous prouve qu'il faut enrôler les enfants qui ont moins de 18 ans. Les pré-majeurs ne sont pas des majeurs.
Pour la CENI Nord-Ubangi, l'enrôlement des nouveaux majeurs à l'horizon 2017 et 2018 aux prochaines élections va se faire en fonction du cycle électoral qui prend en compte les derniers scrutins de ce cycle. Voilà pourquoi parmi les nouveaux majeurs enrôlés vont se retrouver des enfants nés le 31 décembre 2000. Pour l'un des responsables de cette institution qui a requis l'anonymat, ces nouveaux majeurs ne pourront voter que lorsqu'ils vont totaliser 18 ans révolus. Leur carte d'électeur portera des mentions spécifiques pour les identifier. Mbandaka, Dominique Olombi Mungapange, Radio Okapi.
Pour terminer, sachez que l'université autonome de Malemankulu dans le haut Lomami est confrontée depuis quelques années à d'énormes difficultés. D'après la pariteur centrale qui s'est confiée aujourd'hui à Radio Kapi, depuis sa création en 2011, cette institution de plus de 700 étudiants n'a jamais eu de comité de gestion. En outre, le personnel n'est pas payé par l'État congolais. Il bénéficie des frais académiques que payent les étudiants. Les enseignants ne sont pas mécanisés et face à ces difficultés, la pariteur centrale Maurice Ngoï Maloba en appelle à l'implication personnelle du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette édition des nouvelles. Merci de nous rester fidèles.
Okapi, Okapi, Okapi.